nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Madame de Lambert, du salon au cabinet de travail, une émission proposée par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Silence convient toujours à une jeune personne. Il y a de la modestie et de la dignité à le garder. Vous jugez les autres et vous ne hasardez rien. Mais gardez-vous d'avoir un silence fier et insultant. Il faut qu'il soit l'effet de votre retenue et non pas de votre orgueil. Mais, comme on ne peut pas toujours se taire, il faut savoir que la première règle pour bien parler, c'est de bien penser. Madame de Lambert, avis d'une mère à sa fille, in œuvre, édité chez Champion, Paris 1990. Chères auditrices, chers auditeurs, avouez qu'il est difficile de parler après de tels préceptes. Mais la radio m'y oblige. D'ailleurs, je ne parlerai aujourd'hui que pour vous présenter l'œuvre de la dite Madame de Lambert. À vous, ensuite, le silence et le recueillement pour lire l'œuvre de la marquise qui mérite, il me semble, d'être méditée. Madame de Lambert s'est illustrée de deux manières. D'une part, grâce à son salon, d'autre part, grâce à ses écrits. Son salon lui apporte la gloire de son vivant. Ses écrits, eux, ne lui apportent la renommée qu'à la toute fin de sa vie, mais se poursuit après sa mort. Avant d'aborder la présentation de cette œuvre bicéphale, si je puis dire, quelques repères biographiques sont nécessaires. Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles naît à Paris le 25 septembre 1647. Elle est issue, tant du côté de sa mère que de celui de son père, de très riches familles de Troyes en Champagne. Elle est la dernière de quatre filles. Leur père meurt lorsqu'Anne-Thérèse n'a que 3 ans. Les filles sont élevées au couvent et leur mère se remarie en 1664 avec François Le Coigneux, plus connu sous le nom de Bachaumont. C'est un homme cultivé, auteur lui-même. Il contribue à l'éducation intellectuelle de la seule de ses belles filles qui ne choisit pas d'entrer en religion. Celle-ci, Anne-Thérèse, est douée d'une intelligence remarquable. Anne-Thérèse de Marguenat devient marquise par son mariage, célébré le 22 février 1666 avec Henri de Lambert, fils d'une famille peu fortunée, mais bénéficiant d'une solide réputation militaire. Henri de Lambert sera le digne descendant de ses ancêtres puisqu'il est nommé lieutenant général des armées du roi en 1682 et gouverneur de Luxembourg en 1684. 4 enfants, dont un meurt en bas âge, naissent de l'union d'Anne-Thérèse et de Henri de Lambert. L'année 1686 est une année malheureuse pour la marquise de Lambert. Sa vie bascule. Elle a la douleur de perdre, cette année-là, et son mari et une de leurs filles. Il lui faut abandonner la vie brillante menée à Luxembourg. Avec les deuils, viennent aussi les difficultés matérielles. Malgré la pension donnée par le roi, la marquise de Lambert est sans fortune. Elle se trouve, à 39 ans, veuve et mère de 2 enfants, une fille de 17 ans et un fils de 9 ans. Depuis plusieurs années déjà, la marquise de Lambert est engagée dans un long procès contre sa mère et le second mari de celle-ci. Le couple de Bachaumont retient la part d'héritage paternel d'Anne-Thérèse. À partir de son veuvage, celle-ci consacre toute son énergie à ce procès qui s'éternise pourtant. C'est en 1692, après la mort de sa mère, que Madame de Lambert recouvre la somme conséquente de 142 000 livres. Maîtresse d'une très grande et solide fortune, elle est désormais libre de se consacrer aux choses de l'esprit. En 1698, la marquise de Lambert ouvre un salon littéraire, d'abord rue de Richelieu où elle demeure, puis en 1710, dans une partie de l'hôtel que lui loue le duc de Nevers. Cet hôtel était situé, je précise ceci pour nos auditrices et auditeurs parisiens, à l'angle de la rue de Richelieu et de la rue Colbert, dans un angle des appartements du palais Mazarin, dont avait hérité son neveu, donc le duc de Nevers, situé sur l'arcade de la rue Colbert, qui a été détruite sous le Second Empire. Le salon de Madame de Lambert devient rapidement le premier des grands salons littéraires du XVIIIe siècle. Il diffère de la célèbre ruelle de la Chambre Bleue, le salon de Madame de Rambouillet au siècle précédent, car le salon de Madame de Lambert est un lieu de travail, de réflexion, de débat, d'échanges intellectuels intenses. En ce sens, il diffère également des autres salons de son époque qui sont essentiellement des cercles de jeu et de divertissement, surtout sous la Régence. Le jour de réception de la marquise est le mardi, pour le cercle des habitués et amis, et le mercredi pour un cercle plus large, ouvert aux auteurs nouveaux qui veulent soumettre leurs écrits au jugement de Madame de Lambert ou aux auteurs de marque de passage à Paris. Madame de Lambert est attentive au respect du cérémonial qu'elle a instauré. Elle reçoit ses hôtes dans la salle à manger pour le dîner, on dirait aujourd'hui pour le déjeuner. La table de la marquise est connue pour sa recherche et son abondance. Mais le dîner est déjà un temps de travail. Les entretiens et discussions commencent là. C'est autour de la table que le programme de l'après-dîner est esquissé. On y retient les thèmes dont il faudra débattre. On définit les sujets, souvent inspirés par l'actualité littéraire ou philosophique, qui donneront lieu à des dissertations savantes. On détermine également l'ordre dans lequel seront lus les manuscrits que les auteurs invités veulent soumettre au jugement de l'assistance. On sait, par exemple, grâce à une lettre de Madame de Lambert, que souvent, Montesquieu apporte des manuscrits infiniment approuvés par messieurs de Fontenelle et de Lamotte. C'est aussi dans le salon que l'on choisit les extraits qui seront donnés ensuite aux gazettes. Les après-dîners ressemblent à des conférences académiques. À propos, Le cérémonial précis et respecté sert aussi une diplomatie d'un genre particulier, conduite en vue des élections à l'Académie française. Les futurs candidats devaient être présentés à Madame de Lambert et convaincre d'abord le cercle de son salon. Il fallait passer par elle pour arriver à l'Académie française, écrit le président Hainaut. Le programme, on le voit, est chargé et la bonne table que la marquise réserve à ses hôtes n'est sans doute pas superflue pour soutenir de tels efforts. Les mardis s'achèvent toutefois par un souper où Madame de Lambert reçoit, en plus des invités de l'après-dîner, des personnes qui se conviennent, car si l'on est studieux l'après-midi, le soir, on chante. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le salon contribue à fixer un ton et peut-être même un langage. Il permet en tout cas la régularité d'une vie intellectuelle intense et féconde. Les habitudes, les pratiques du salon de Madame de Lambert expliquent qu'il soit devenu une véritable institution capable de décider de l'issue d'un grand débat littéraire, philosophique, ou d'une élection à l'Académie. D'ailleurs, si dans les commencements la marquise est moquée, on briguera rapidement l'honneur d'être reçue dans son salon. Marivaux, Crébillon, l'abbé Mongo, précepteur du duc de Chartres, fils du régent, l'abbé de Bragelonne, entre autres, fréquentent le salon et aussi beaucoup de femmes, parmi lesquelles Madame de Fontaine, Madame d'Aulnoy, Madame de Murat, Madame de Force, Madame de Caylus, toutes romancières ou mémorialistes. Le cérémonial permet également la cohésion et la solidarité du groupe constitué autour de Madame de Lambert. Fontenelle, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et membre de l'Académie française, de Lamotte, de Sacy, Montesquieu et quelques autres. Les méthodes de travail, l'organisation assurent une longévité exceptionnelle au salon ouvert de 1698 jusqu'en 1733, année de la mort de la marquise. Pendant plus d'une vingtaine d'années, Madame de Lambert maintient au pinacle la notoriété de son salon. Mais cela n'est pas suffisant pour satisfaire l'esprit de la marquise, bien que la tenue du salon, qu'on nomme aussi bureau d'esprit, soit une lourde charge et exige beaucoup d'énergie et de travail. Madame de Lambert ne s'en tient pas là. Elle rédige discrètement et assidûment une œuvre de moraliste. Les vertus d'éclat ne sont point le partage des femmes, mais bien les vertus simples et paisibles. La renommée ne se charge point de nous. Un ancien dit que les grandes vertus sont pour les hommes. Ils ne donnent aux femmes que que le seul mérite d'être inconnu. Ce ne sont point celles, dit-il, qu'on loue le plus qui sont le mieux louées, mais celles dont on ne parle point. La pensée me paraît fausse, mais pour réduire cette maxime en conduite, je crois qu'il faut éviter le monde et l'éclat qui prennent toujours sur la pudeur et se contenter d'être à soi-même son propre spectateur. Madame de Lambert, avis d'une mère à sa fille, in œuvre, édité chez Champion, Paris, 1990. Madame de Lambert érige la pudeur, entendons la discrétion, la bienséance, au premier rang des règles de conduite de la vie d'une femme. Pour bien comprendre que cette pensée n'a rien à voir avec le rigorisme, il faut avoir présent à l'esprit que les femmes qui souhaitent acquérir des connaissances, qui veulent étudier, sont la risée de la société et la vie d'une femme ridiculisée devient, on le sait, à peu près insupportable. Certaines comédies de Molière à cet égard n'ont pas rendu service au mouvement d'émancipation du savoir des femmes qui s'était amorcé au XVIIe siècle. Mettre les rieurs de son côté en ridiculisant une femme est une stratégie ancienne et, on peut le dire, lamentable. Être une femme ridiculisée, donc, à cause de sa volonté de savoir, est pour Madame de Lambert une des choses les pires qui puissent arriver à une femme, à tel point qu'elle-même se croit déshonorée. On voit ici la force du préjugé, lorsqu'en 1726, trois de ses traités, Réflexions sur les femmes, Avis d'une mère à son fils, Avis d'une mère à sa fille, sont imprimés à son insu. Elle avait jusqu'ici bâti son œuvre discrètement, dans le silence du cabinet. Ses ouvrages n'avaient été lus que dans un cercle restreint d'intimes, car elle était soucieuse, aux yeux du monde, de ne point paraître faire profession de bel esprit. Dès lors, on comprend mieux ce que signifie ce « pour réduire cette maxime en conduite ». En effet, il est judicieux de se plier à la règle sociale qui exige des femmes qu'elles soient effacées et sans gloire, mais rien ne les oblige à rester incultes. Madame de Lambert, qui toute sa vie privilégia l'étude et la réflexion, le travail intellectuel, est très ferme. « Il faut, écrit-elle dans son traité de la vieillesse, se prêter aux usages de la vie, mais il ne faut pas y engager son opinion ni sa liberté. » On a donné aux hommes tous les secours nécessaires pour perfectionner leur raison et leur apprendre la grande science du bonheur dans tous les temps de leur vie. Cicéron a fait un traité de la vieillesse pour les mettre en état de tirer parti d'un âge où tout semble nous quitter. On ne travaille que pour les hommes, mais pour les femmes, dans tous les âges, on les abandonne à elles-mêmes. On néglige leur éducation dans la jeunesse, dans la suite de leur vie, on les prive de soutien et d'appui pour leur vieillesse. Aussi, la plupart des femmes vivent sans attention et sans retour sur elles-mêmes. Dans leur jeunesse, elles sont vaines et dissipées, et dans la vieillesse, elles sont faibles et délaissées. Nous arrivons à chaque âge de la vie sans savoir nous y conduire ni en jouir. Quand il est passé, nous voyons l'usage qu'on en pouvait faire. Mais comme les regrets sont inutiles, à moins qu'ils ne servent à nous redresser, voyons à profiter du temps qui nous reste. Je m'aide de mes réflexions, et comme j'approche de cet âge où tout nous échappe, je veux retrouver dans ma raison la valeur des choses que je perds. Madame de Lambert, traité de la vieillesse. La vieillesse, ah, celle de Madame de Lambert n'est pas ordinaire. Elle a plus de 60 ans lorsqu'elle devient l'égérie du salon le plus cultivé de Paris, mais elle en a 80 lorsqu'elle devient une femme de lettres célèbre, jusqu'à être traduite et publiée en anglais. À ce sujet, elle écrit à Saint-Hyacinthe, rédacteur du journal littéraire de La Haye, « Si j'avais su que messieurs les Anglais eussent honoré de l'impression un si médiocre écrit, je vous l'aurais envoyé tel qu'il est, craignant moins ce qui se peut dire dans un pays étranger que le bruit qui se fait autour de moi. » La femme romancière était généralement ridiculisée, on l'a vu, mais que dire d'une femme qui se pique de philosophie ? Oui, Madame de Lambert est un précurseur. Ceci la place exactement dans la position schizophrène des femmes de son époque et bien au-delà, confrontées au problème de leur entrée dans la République des Lettres. Elles sont à la fois contraintes de s'excuser d'écrire, de s'excuser de penser, de réfléchir, voire s'excuser d'être cultivées, mais elles ont aussi la volonté d'écrire et de penser. Elles sont prises entre le ridicule établi comme une norme et l'obligation de diffuser leurs idées pour que précisément la norme évolue. Il suffit de lire cette phrase dans la lettre que Madame de Lambert envoie à son éditeur anglais pour saisir la colère que cette position engendre, mais aussi la duplicité qu'il faut pour en sortir. « Je n'ai jamais, écrit-elle, pensé, monsieur, qu'à être ignoré et à demeurer dans le néant où les hommes ont voulu nous réduire. » En disant qu'elle ne pense qu'à être ignorée, elle dénonce aussi l'injustice de l'être. Tout au long du XVIIIe siècle, les œuvres de Madame de Lambert seront régulièrement publiées en France, en Angleterre, on l'a dit, mais aussi en Allemagne. Nous voyons par là que ces traités ont intéressé les Lumières. Mais il y a un léger recul des publications au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous pouvons lire l'œuvre de Madame de Lambert grâce à l'édition quasi intégrale proposée par Robert Grande-Route chez Honoré Champion, publiée en 1990.
Thank you.
Pour clore cette émission et pour nous ouvrir à la réflexion de l'œuvre de Madame de Lambert, écoutons un extrait de son traité de l'amitié, voulez-vous ? Plus on avance dans la vie et plus on sent le besoin que l'on a de l'amitié. À mesure que la raison se perfectionne, que l'esprit augmente en délicatesse et que le cœur s'épure, plus le sentiment de l'amitié devient nécessaire. Voici ce que le loisir de ma solitude m'a fait penser sur ce sujet. Dans tous les temps, on a regardé l'amitié comme un des premiers biens de la vie. C'est un sentiment qui est né avec nous. Le premier mouvement du cœur a été de s'unir à un autre cœur. Cependant, c'est une plainte générale. Tout le monde dit « il n'y a point d'amis ». Tous les siècles ensemble fournissent à peine 3 ou 4 exemples d'une amitié parfaite. Puisque tous les hommes conviennent des charmes de l'amitié, pourquoi, dans un intérêt commun, tous ne s'entendent-ils pas, ne s'unissent-ils pas pour en jouir ? C'est un effet du dérèglement des hommes de s'aveugler sur leurs véritables intérêts. La sagesse et la vérité en nous éclairant rendent notre amour-propre plus habile et nous apprennent que nos véritables intérêts sont de nous attacher à la vertu et que la vertu amène les doux plaisirs de l'amitié. Voyons donc quels sont les charmes et les avantages de l'amitié pour les chercher. Quel est le véritable caractère de l'amitié pour la connaître ? Et quels sont les devoirs de l'amitié pour les remplir ? Les avantages de l'amitié se présentent assez d'eux-mêmes. Toute la nature n'a qu'une voix pour dire qu'ils sont de tous les biens les plus désirables. Sans elle, la vie est sans charme. L'homme est plein de besoins. Renvoyé à lui-même, il sent un vide que l'amitié seule est capable de remplir. Toujours inquiet et toujours agité, il ne se calme et ne se repose que dans l'amitié. Un ancien dit que l'amour est fils de la pauvreté et du dieu des richesses. De la pauvreté parce qu'il demande toujours, du dieu des richesses parce qu'il est libéral. L'amitié ne pourrait-elle pas aussi avoir la même origine ? Quand elle est vive, elle demande des sentiments. Les âmes tendres et délicates sentent les besoins du cœur plus qu'on ne sent les autres nécessités de la vie. Mais, comme elle est généreuse, elle mérite aussi qu'on la reconnaisse pour fille du dieu des richesses, car il n'est pas permis de se parer du beau nom d'amitié dès que l'on manque à ses amis dans le besoin. Enfin, les caractères sensibles cherchent à s'unir par les sentiments. Le cœur étant fait pour aimer, il est sans vie dès que vous lui refusez le plaisir d'aimer et d'être aimé. Comblez les hommes de biens, de richesses et d'honneur, et privez-les des douceurs de l'amitié. Tous les agréments de la vie s'évanouissent. Les personnes raisonnables se refusent à l'amour, les femmes par l'attachement à leurs devoirs et les hommes par la crainte d'un mauvais choix. Vous êtes attirés dans l'amitié, vous êtes entraînés dans l'amour. L'amitié s'enrichit des pertes de l'amour. Elle en devient plus tendre, plus vive et plus empressée. Toutes les délicatesses de l'amour se trouvent dans les engagements dont je parle. L'amitié naissante est sujette à l'illusion. La nouveauté plaît et promet, et tout ce qui réveille l'espérance est d'un grand prix. L'illusion est un sentiment qui nous transporte au-delà de la vérité et qui obscurcit nos lumières. Vous voyez dans les personnes qui commencent à vous plaire tout ce qu'il y a de bon. Et l'imagination, qui toujours agit au gré du cœur, prête à la personne aimée le mérite qui lui manque. On aime ses amis bien plus que les qualités qu'on devine que par celles qu'on connaît. Il y a aussi des amitiés d'étoiles et de sympathies, des liens inconnus qui nous unissent et qui nous serrent. Nous n'avons besoin ni de protestations, ni de serments. La confiance va au-devant des paroles. Quand Montaigne nous peint ses sentiments pour son ami, « Nous nous cherchions, dit-il, nos noms s'embrassaient avant que de nous connaître. Ce fut un jour de fête que je le vis pour la première fois. Nous nous trouvâmes tout d'un coup si liés, si unis, si connus, si obligés, que rien nous fut plus cher que l'un à l'autre. Et quand je me demande d'où vient cette joie, cette aise, ce repos que je sens lorsque je le vois, c'est que c'est lui, c'est que c'est moi. C'est tout ce que je puis dire. Nous jouissons dans l'amitié de tout ce que l'amour a de doux, du plaisir de la confiance, du charme d'exposer son âme à son ami, de lire dans son cœur, de le voir à découvert, de montrer ses propres faiblesses. Car il faut penser tout haut devant son ami. Il n'y a que ceux qui ont joui du doux plaisir de l'amitié qui sachent quel charme il y a à passer les journées ensemble. Que les heures sont légères, qu'elles sont coulantes avec ce qu'on aime. Quelle ressource que l'asile de l'amitié. Madame de Lambert, Traité de l'amitié, in œuvre, édité chez Champion, Paris 1990. La musique est de Marc-Antoine Charpentier, la prise de son et la réalisation de Spencer Clairefeuille. Vous retrouverez les références des ouvrages utilisés pour cette émission à la page Madame de Lambert du Salon au cabinet de travail, une émission préparée et proposée par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie.